Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Je suis heureux d'accueillir Fred, un ex-contributeur de RDWA qui, hélas, nous a abandonnés en chemin. Salut Fred.
Salut. Non, j'ai abandonné personne.
Ben si, tu as arrêté ton émission La Quatrième Dimension quand même.
Et ouais.
Parce que t'avais, je sais, d'autres chats fouettés, en particulier trouver de l'argent.
Oui, on peut dire ça. Non, mais la radio, c'est merveilleux, la radio, parce qu'il y a des gens merveilleux qui bossent, donc ça donne envie, et puis ça ouvre plein de possibilités. C'est super, quoi, de s'exprimer. Et comme j'aime bien m'exprimer, voilà, c'est un support que j'ai été vraiment très heureux de partager, et j'y reviendrai, je pense, j'explorerai d'autres radios, faire du lien.
En tout cas, je tenais à le dire, hein, pour te situer un peu, mais tu es venu ici pour présenter un autre de tes moyens d'expression, car pour ceux qui te connaissent, tu avais fait des expositions aux Loco-Loco de tes œuvres qui étaient vraiment belles au niveau graphiste. Et là, tu viens de sortir une bande dessinée qui s'appelle Monsieur Drôle aux éditions du Freak. Alors, je ne sais pas ce que c'est, tu vas nous raconter. Et ça a été achevé d'imprimer en juin 2015 sur les presses numériques de l'imprimerie Heraldi. A dit même, hein, tu fais travailler le commerce local. Donc voilà, tu vas nous parler un petit peu de cette bande dessinée. C'est pas tous les jours qu'un Diwa en pond une.
Voilà, certainement. Après, je suis pas au courant de tout ce qui se fait dans le Diwa, mais il doit s'en faire pas mal. Au niveau de l'édition, il y a quelques personnes, mais en bande dessinée pure, je sais pas trop. J'ai pas eu trop eu d'écho.
Je crois que c'est assez rare, hein, je te confirme.
En tout cas, faire marcher le commerce local, marcher localement, c'est bien. Ça permet de partager aussi ce que l'on fait soi avec d'autres types de personnes, des artisans ou autres qui sont pas forcément au fait de ce qui se fait culturellement réellement dans le coin. Et puis, c'était pas une solution de facilité parce que je me suis renseigné un peu, mais voilà, je trouve ça bien, pratique, sympa d'aller voir ce qu'il y a à côté de chez soi. Donc, ça a été achevé d'imprimer, oui, en juin 2015. C'est une longue histoire, ça aurait dû être fait depuis un an déjà. Mais bon, finalement, ça a pris du temps, des retouches, des personnes qui ont pu jeter un œil dessus, et jusqu'à ce que je cisèle l'affaire. Et j'étais notamment parti sur une écriture manuscrite, et il y a eu quelques petits problèmes de lecture, de compréhension. Enfin voilà, fallait que ça soit clair et net, que ça porte pas à conséquence au niveau de la fluidité de lecture. Donc j'ai repris une typo, une police d'ordinateur. J'en ai choisi deux, une narrative, une discursive, pour mettre en relief un peu différents dialogues ou sens de l'écriture, quoi.
Mais alors donc, ça veut dire que t'as dû refaire tous les textes qu'il y avait dans les bulles grâce à un ordinateur?
Ouais, alors la BD est manuscrite. Hein. Enfin, manuscrite, oui, elle est faite à la main. C'est pas une BD qui a été travaillée sur un ordinateur avec un logiciel. J'adore l'encre de Chine. Le noir et blanc.
C'est en noir et blanc, on peut le préciser.
Voilà, c'est en noir et blanc, exclusivement. Parce que l'encre de Chine est une matière que j'aime beaucoup. Le travail de la couleur, ça serait encore un travail énorme. Et c'est pas non plus un travail unique. La BD, ça fait partie de pas mal de passions que j'ai. C'est quelque chose qui demande du temps, qu'on bosse à côté et qu'on est pris par d'autres choses. Enfin voilà, c'est difficile de se rendre complètement disponible à ce genre de travail-là, quoi. Enfin, dans ma situation, je suis pas professionnel, j'ai pas les moyens non plus de faire que ça. Donc voilà, c'est une BD qui s'est fait sur 3 ans, disons 3 hivers, où j'ai pu m'y consacrer un maximum de temps. Plus encore encore 6 mois de travail justement sur ordinateur pour nettoyer les planches, tout ce qui est contraste, tout ce qui est un peu mise en page, l'écriture qui m'a demandé énormément de temps pour refaire justement les bulles en typo d'ordi. Donc même quand c'est terminé, c'est encore du boulot. Donc effectivement, ça prend énormément de temps et à la sortie, de voir que ce produit fini, c'est merveilleux parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Il y a toujours quelque chose à revoir. Et au niveau de l'imprimerie aussi, ça n'avait pas été évident au début d'avoir le résultat escompté. Donc ça a encore pris un mois, deux mois, voilà quoi. Et aujourd'hui, enfin, elle sort. Voilà, aux éditions du FREAK, donc FREAK, F-R-E-A-K, comme en anglais. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire en anglais ?
Traduit plus par phénomène, en gros. Il y a eu pas mal de films, et, notamment FREAKS, qui sont assez connus, où ce mot-là est usité. Après, je ne pense pas que ce soit un mot d'argot spécialement, mais oui, ça renvoie plus à justement une bonne dimension artistique, je trouve. Et derrière FREAK, le mot phénomène, ça peut être monstre, monstre de foire ou étrange, ou ça peut être assimilé à d'autres mots. Après, il y a d'autres mots en anglais qui sont plus spécifiques, mais ce côté-là, d'une autre dimension, peut-être de la dimension artistique que je peux avoir, que je vais travailler, parce que je suis pas un FREAK tous les jours.
Et c'est une maison d'édition qui existe vraiment ou c'est fantasmagorique ?
Non, elle existe.
Tu es un poulain des éditions du FREAK ? Ou c'est toi qui l'as créé ?
C'est moi qui l'ai créé. Ah, voilà, pour le moment, je suis la seule personne qui édite à l'intérieur de cette édition puisque c'est la première parution qui existe. Mais après, voilà, c'est autofinancé de toute façon. Donc je l'ai fait de A à Z, hein, cette BD. Donc le dessin, le scénario, le concept de l'objet lui-même, l'édition, voilà, c'est un tout afin de pouvoir sortir cette BD. Il a fallu tout créer de A à Z. Je me suis tourné vers quelques éditions. Après, le monde de l'édition, c'est particulier. Il y a ce qui convient aux enfants, il y a ce qui convient aux adultes, il y a ce qui est historique. Là où se trouvent les boîtes d'édition, les villes ou autres, il y a des rapports culturels, géographiques. C'est assez ciblé les orientations que les boîtes d'édition prennent pour leur sujet.
Alors ça, c'est des excuses pour m'expliquer que tu n'as pas été pris par une maison d'édition du style d'argot éditeur, alors c'est ça ?
Je ne cherche pas du tout à avoir d'argot éditeur ou d'autres, quoique ça serait avec plaisir.
Bon, alors
mais simplement mais j'ai Dargo d'ailleurs que j'ai pas contacté du tout, mais j'aime bien les choses indépendantes, un peu autonomes, c'est plus une BD qui aurait presque un profil associatif finalement quoi. Maintenant elle rentre dans les clous parce que elle a été enregistrée à la BNF, du coup elle a son code barre, tout ça, donc c'est une œuvre officielle qui peut se vendre dans les lieux spécifiques. Donc voilà, j'ai des démarches à faire encore par rapport à ça, j'en ai fait quelques-unes. L'essentiel, c'était déjà d'avoir un premier ouvrage qui me permettait de faire vivre justement ce côté d'aller à la rencontre de l'autre avec un objet qui parle et en dehors, justement, dont on parlait pour la radio ou de la musique que je peux faire. Voilà, c'est encore un autre moyen de partager sa pensée. Et c'est bien, quoi. En plus, c'est un objet qui reste périn, ça reste sur une étagère, ça peut être pris, repris, relu. C'est chouette. Hein.
Alors, moi, je ne peux qu'être admiratif devant, justement, la somme colossale d'efforts que cela suppose, hein, comme tu as dit. Tout seul, de la conception à l'écriture, à la scénarisation, à l'édition, oh là là, à l'inscription à la BNF, à la création d'une maison d'édition, à la gestion de l'impression à Heraldi. Et puis après, maintenant, il faut que tu coltines les démarches commerciales. Oh là là, mais c'est un sacré boulot quand même. Hein.
C'est un boulot. Puis bon, ça a un coût, donc je n'en ai pas tiré énormément. J'ai tiré 50 exemplaires déjà, je suis content. Et puis après, c'est plutôt, je vais fonctionner avec le réseau local. Je vais essayer de voir avec les médiathèques. Et parce que c'est un ouvrage, donc ça fait quand même 40 pages. Donc c'est à peu près un format standard pour une bande dessinée, format A4, Ça a été imprimé du papier glacé un peu, donc c'est un produit qui est très correct et Ouais, ça a été un travail de longue haleine, donc je suis très content qu'il soit là, enfin, et que je puisse voilà, aller à la rencontre des uns des autres avec ça sous le bras, et sans chercher à faire des monts et des merveilles à l'intérieur, voilà, c'est parce qu'on va finir par parler un petit peu de l'histoire.
Ouais, c'est vrai, on va y arriver.
Voilà, c'est une manière de partager aussi d'autres points de vue sur notre cher monde.
Alors, c'est donc une parabole sur le monde moderne. Est-ce que tu pourrais justement nous parler du fond de Monsieur Drôle ?
Alors, Monsieur Drôle, mais qui est Monsieur Drôle ?
Apparemment, il a subi un trauma quelconque et il ne veut plus parler, bien qu'il soit pas si mécontent que ça.
Eh bien, oui, en gros, c'est l'histoire d'un innocent qui est pris dans un rouage mafieux, enfin, qu'il dépasse. Alors, l'histoire se situe à Chaï. Donc, Chaï, c'est un petit village qui se trouve à Chaï, n'est-ce pas ? Comme dit l'expression, j'ai repris cette expression populaire pour dire que ça se passe loin, à la fois ça se passe ailleurs, et ailleurs c'est un peu partout, hein, c'est même ici pour d'autres personnes. Donc voilà, c'est une histoire qui, une manière symbolique, pourrait se passer partout, il se passe certainement de partout. Donc voilà, je voulais vraiment mettre un contexte géographique neutre, en quelque sorte. Donc c'est une manière de pouvoir s'identifier aussi, voilà. Donc lui, un personnage très simple, qui a une vie, on pourrait presque dire routinière, qui se retrouve embarqué malgré lui dans des choses vraiment d'un autre ordre, une sorte d'invasion dans la vie privée, dans la vie personnelle. C'est des choses qui se passent un peu de partout, c'est pourquoi des hommes se battent aussi. Voilà, mais cette situation va devenir un révélateur de ce que Monsieur Drôle porte en lui, finalement, qui était une part cachée de lui-même et qui est une part de vie et qui va lui permettre de traverser cette situation, non pas sans dommage en quelque sorte, mais voilà, c'est aussi une manière de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Enfin, il n'y a rien vraiment de bon, de mauvais, il y a une expérience qui se vit, qui le transforme, et sa transformation va lui faire quitter son monde habituel pour un autre monde, en quelque sorte, je dirais, mais qui est plus un monde intérieur. Et au passage, justement, cette révélation de son monde intérieur va lui permettre, dans ce rouage mafieux, eh bien, de dénouer des nœuds aussi, de... Voilà, ça aura un impact sur les personnes, sur les protagonistes de l'histoire qui l'entourent, et dans un sens très positif.
Donc c'est une petite parabole sur le fait qu'un individu innocent peut être le rouage qui fait dérailler l'obscurité qui nous menace tous.
Eh ben, je ne sais pas si l'obscurité, si c'est la mort, oui, effectivement, elle nous menace tous. Après, c'est voilà, on est à l'abri de rien, tout arrive. Bon, on le voit bien aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. Hein, voilà, c'est plutôt un monde de superpuissance, et là où l'on vit, nous, c'est plutôt un village tranquille, en quelque sorte. Mais bon, voilà, c'est un monde d'échange qui a des proportions. Vraiment qui peuvent nous dépasser complètement, et du coup ça, voilà, c'est, on vit d'échanges, on vit d'informations, on se bat pour des choses, et des fois on le fait volontairement puisqu'on va au feu en quelque sorte, et puis des fois voilà, on est un peu surpris par les choses qui viennent nous chercher en quelque sorte, et là c'est un peu ce qui se passe. Mais c'est un personnage vraiment innocent, enfin voilà, c'était une sorte, comment dire, de
Ah. Est-ce que c'est autobiographique ? Est-ce que tu es ce monsieur drôle qui est innocent, impliqué dans des combats qui le dépassent et qui, grâce à son innocence révélée, va justement être ce petit grain de sable ?
Ah bah, on est tous plus ou moins innocents. On perd une part de son innocence. Après, j'espère qu'on en garde une quand même, suffisamment pour contrebalancer le reste. Et non, moi, je pense pas que ça soit innocent déjà de ma part d'avoir fait cette BD. Et puis, c'est une personne qui est assez simple d'esprit. C'est une histoire de guérison, en fait, cette BD aussi. Cette histoire de guérison, donc, elle va être pour le personnage principal, Monsieur Drôle. Puisque la situation va révéler en lui cette puissance de vie qui va le guérir d'une certaine cécité, je pourrais dire, sur lui-même et sur la vie. Et puis sur les protagonistes qui l'entourent, justement, puisque c'est l'histoire par rapport à la mafia, justement, bon, qui est un prétexte comme un autre de trouver un envahisseur extérieur. Hein. Ça aurait pu être plein de choses différentes. Voilà, c'était un parti pris. Du coup, c'est une sorte d'histoire de puissance de vie contre une puissance de mort. Hein. Voilà, c'est très symbolique cette histoire, puisque aussi, au travers de ça, il y a le liant, ça va être une histoire de poison. Et le poison, il est représenté graphiquement par des reptiles voilà, qui sont présent tout au long de la BD à certains moments pour porter un peu plus le regard empoisonnant de ce qui se passe quoi, ou son combat personnel quoi.
Il y a une dimension un peu onirique hein. On sent que tu te rattaches à l'école surréaliste, ça me fait penser de temps en temps, je sais pas si tu connais Nestor Burma.
Oui, oui,
de Léo Mallet qui était un surréaliste, et à chaque fois dans un de ces mystères de Paris qu'il résout, il se prend un coup sur la tête et là il part dans des rêves, dans des strates un peu barrées, et quand il se réveille il a mal au crâne certes, mais il a progressé dans son enquête. Encore une fois, le poison aussi, le caducée dans en pharmacie, c'est aussi ce qui guérit.
Oui, oui, tout à fait, oui. Là, c'est vrai que j'ai pas fait comme Nestor Burma ou d'autres, c'est, il n'y a pas une véritable enquête. C'est pas une BD qui est ni policière, qui est ni fantastique. Pour moi, c'est oui, plus une BD symbolique. Et au niveau du graphisme, il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'inspirer. Hein. Il y a des grands dessinateurs dans tous les pays. Moi, j'aime beaucoup Bernie Wrightson hein, aux États-Unis. Bon, Moebius en France. Il y a, comment il s'appelle, Magnus en Italie. Voilà, c'est des personnes qui sont assez phares. Après, il y en a énormément. De toute façon, la liste est longue. Mais voilà, c'est des personnes que j'ai beaucoup aimées par rapport à leur travail graphique, leur travail aussi sur peut-être un côté plus... parce que c'est des personnes qui ont pas mal travaillé le fantastique. Voilà, moi, c'était l'idée de prendre, en fait, cette dimension fantastique, d'arriver à l'inclure dans quelque chose de très simple, de très quotidien, parce que je trouve que le quotidien est, voilà, c'est fantastique, le quotidien. C'est la vie de tous les jours. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on en connaît? Qu'est-ce qu'on n'en connaît pas? Enfin, voilà. On vit constamment avec des choses qui nous entourent, dont on est, plus ou moins ignorant finalement de la valeur des choses qui nous entourent et de notre propre valeur. Et cette BD, voilà, c'était une manière de mélanger la dimension commune et fantastique, de révéler un peu cette dimension plus onirique. Enfin, l'onirisme, c'est une manière de traiter un sujet quoi. Après, elle se fait plus oui, dans ce côté fantastique du dessin. Et parce que le sujet, finalement, est assez simple et c'est de réunir les deux aspects d'une même balance en un seul pour pouvoir se dire que les choses sont moins évidentes qu'il ne le semble tout le temps. Et puis, à l'intérieur, du coup, j'ai aussi rajouté pas mal de clins d'œil à des choses différentes. Voilà, à découvrir.
En tout cas, si il y a vraiment quelque chose qui m'a impressionné, c'est effectivement la qualité graphique. Je trouve que tes dessins sont remarquables. Je ne sais pas à qui ça se rapprocherait. Hein. Tu as dit Magnus, Moebius et cet Américain, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est effectivement un travail de très grande qualité. L'agencement aussi, il est bien fait. Les têtes, les décors, tout est bien fait. Là où c'est vrai que, bon, alors on rejoint, ça c'est, je crois que c'est chacun avec sa perception du monde qui comprend plus ou moins le surréalisme ou pas. C'est vrai que l'histoire et les dialogues m'ont paru un petit peu, pas obscurs, mais justement qui laissent trop de place à la liberté d'interprétation. Pour moi, qui suis un taureau très prosaïque. Moi, j'aime bien quand il y a une histoire avec un méchant, des bons.
Oh, mais il y en a des méchants.
C'est vrai, il y a des méchants. En fait, j'ai pas tout compris. Voilà. Et des clins d'œil.
Mais moi, ce qu'il y a, c'est que, effectivement, l'histoire, d'une manière chronologique, n'a pas un sens classique. Le commencement est narratif. C'est comme si on commençait à rebours. C'est assez classique aussi. Hein, même dans le cinéma, on voit une situation. Hop, on revient 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a un côté comme ça, quoi. Après, ça va très vite, en fait. Du coup, la manière dont j'ai pu décortiquer, c'est une sorte de puzzle, hein, avec tous les personnages qui représentent des forces différentes autour du personnage principal qu'on voit quasiment peu parce que c'est son combat personnel déjà à l'intérieur qui est le noyau de l'affaire, mais quand on lit la BD, c'est un peu comme justement un fruit. On a toute cette chair avant d'arriver à la fin à comprendre quel est ce noyau de l'affaire, justement, quoi. Mmh. Après, j'ai assez quand même bien caricaturé cette histoire de méchant et de gentil, en quelque sorte. D'une manière chronologique, c'est un petit peu mélangé. Il faut dire que cette histoire, mais c'est assez clair parce que effectivement, il y a peut-être un ou deux moments, il y a des transgressions ou des agencements plus particuliers au niveau de la chronologie. Mais c'est une histoire que j'ai écrite d'une manière complètement spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écrit avant, de mise en forme. Pour moi, je suis autodidacte, hein, c'est la première BD que je fais. J'ai déjà dessiné, j'avais fait des essais avant, mais celle-ci, c'est vraiment la première qui a abouti, la seule d'ailleurs. Et du fait, je me suis laissé inspirer, en fait. Je voulais partir d'une histoire courte pour pouvoir faire des choses, des choses assez diverses et éclectiques. Et du coup, je me suis repris au jeu et je me suis retrouvé à continuer de fil en aiguille cette histoire. Et je me suis laissé inspirer coup par coup, quoi. Donc, ça a permis qu'il y ait un fil qui se tienne, parce que je reprenais tout le temps mon travail pour voir vers quelle logique je me tournais. Et les choses se sont imposées d'elles-mêmes, les divers sujets autour d'un même sujet. Après, je fais quand même un travail de réflexion autour des idées qui me viennent. Et voilà, je pense qu'il y a quelques choix que j'ai dû faire. J'ai oublié maintenant, mais je pense que ça ne s'est pas fait comme ça non plus d'un seul coup. Il y a des partis pris.
Je suppose. Mais ceci dit, alors, une fois que tu as fait cette première BD, tu as envie d'en faire d'autres?
Justement, c'est écrit à la fin, là, un nouveau bouquin qui va sortir, qui s'appelle Motus et Bouche Cousue. Donc voilà, qui est terminé, qui doit être imprimé, dès que je peux m'en occuper. Ça sera pas une bande dessinée, ça sera plus un portfolio. Ça s'appelle Matière à réflexion. Il y aura plus un petit clin d'œil autobiographique. Mais voilà, ça sera quelque chose de carrément différent, de plus court, plus ludique, j'ai envie de dire. Dans cette BD, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses à la fois, des clins d'œil à pas mal de choses qui pouvaient m'interpeller. Il y a un clin d'œil à l'intérieur. Il y a un personnage qui est homosexuel, qui est plus ou moins des personnages principaux, mais qui sert aussi de leitmotiv pour parler de 2-3 choses au niveau du regard qu'on a sur l'autre.
Donc tu passes des messages en filigrane.
Mais de toute façon, je vois pas quel moyen de communication ne passe pas des messages. Un journal, un Spirou, un Tintin, une BD, un roman noir. Tout parle de l'homme et de sa relation à l'homme.
Oui, mais enfin, tu as par exemple les romans de gare. La substantifique moelle de certains romans dits à l'eau de rose, bien sûr, qui valorise l'amour, par exemple, et somme toute certainement très tenue.
oui, après, avec l'amour, on peut faire des choses aussi excellentes que désastreuses, j'ai envie de dire. Mais tous les sujets sont bons à traiter, ça dépend comment on les traite. Et puis, il y a un public pour toute forme d'expression. Donc, Des fois, on aurait envie qu'il y ait des choses plus pertinentes et on fabrique énormément de choses qui sont faites pour lire vite fait, qui sont faites pour s'évader un petit peu comme ça, mais sans se prêter au jeu. Puis il y a des personnes qui sont très tenues par ces romans de gare et tout ça, puis il peut y en avoir des qui sont bons. Moi, je suis pas très lecteur de ce genre de romans, mais...
Sur la page de garde, on voit le héros qui se pose une question puisqu'il a un point d'interrogation. Derrière lui, il y a le monde et traversant le monde, il y a le fameux poison, le reptile qui brise le monde, hein, qui traverse le monde. Est-ce que c'est une référence à certaines littératures du style Anton Parks ou je ne sais qui prétendent que les reptiles nous auraient envahis ?
Non, pas du tout. Non. Après, bon, le reptile, de toute façon, c'est voilà, effectivement, comme pour le symbole de la pharmacie ou d'autres, ça a un rôle mythologique, historique, que ce soit biblique ou autre, ou même toujours de nos jours, quoi. C'est l'animal à sang froid aussi. Donc, nous, on est des mammifères à sang chaud, et rien que là, déjà, la différence est assez énorme. Et puis, j'ai pas envie de stigmatiser du tout le reptile comme les Dents de la Mer et Spielberg ont pu le faire pour ce pauvre requin blanc. Moi, j'aime beaucoup les animaux, les reptiles comme les autres. Pour moi, il n'y a pas une grande différence, hein, chacun a sa place. Après, voilà, ça avait cette dimension aussi, la bataille d'un animal à sang froid contre un autre à sang chaud. Enfin, voilà. Bah, toute la BD est un peu équilibrée là-dessus. La pochette, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est un dessin qui est assez simple et qui représente bien l'esprit de la BD. C'est-à-dire que la Terre, elle est représentée donc, sur la pochette, la Terre comme une boule creuse, en quelque sorte, de laquelle peut sortir le personnage principal. Et à la fois comme une forme pleine de laquelle sort le serpent. Le serpent, il sort de la Terre comme d'un œuf. Et personnage principal comme si c'était une porte, plus... Et voilà, c'est le côté, voilà, entre l'équilibre entre ce qui est creux, ce qui est plein, ce qui est fort, ce qui est faible, ce qui peut être de la guérison, du poison, des forces contraires, mais qui vivent au sein d'une même planète, hein, aussi. Et puis, c'est symbolique aussi, hein, ce personnage innocent et cet autre qui est plus empoisonnant, bah, c'est ce qu'on porte en nous aussi, c'est notre combat personnel et... Pour la BD, le personnage est amené à révéler complètement cette autre personne qu'il porte en lui-même. Ce que beaucoup font comme travail, hein, sur... enfin, on fait tous plus ou moins ce travail-là, d'aller chercher quelque chose en nous qui soit toujours plus en paix, plus positif, plus grand, qui aurait cette force de mieux vivre avec l'autre, de manière plus simple aussi, en étant moins victime du coup aussi. De notre propre situation et dans l'histoire justement c'est l'agresseur en quelque sorte à la sortie qui se retrouve la victime de sa propre machination mais dans un sens très positif.
On va pas quand même tout révéler ni spéculer philosophiquement sur quelque chose que les gens n'ont pas forcément encore lu puisque la distribution de ta BD ne fait que commencer. Je glisse comme ça que vous avez quelques exemplaires si vous voulez en acheter à RDY et puis les autres on en trouvera peut-être à Mosaïque.
Alors, Mosaïque, je sais pas, j'ai pas été les revoir, j'ai été pas mal pris depuis le mois de juin où la BD est sortie. Je vais en déposer un petit peu, je pense, au Baradis, je compte aller voir la médiathèque, Mosaïque, ça pourrait être sympa que je passe les voir aussi. Et en même temps, il y a un petit événement que j'aimerais faire au Bocal, à Minglon, un soir avec Bastien, Monsieur Estable de la Bascule, puisque c'est lui qui sert la bière là-bas. Et voilà, c'est un vieil ami avec, pour qui je fais les étiquettes de bière aussi. Et ça serait, voilà, j'espère, début octobre, faire un petit événement là-bas pour... exposer les pour la sortie de la BD et en même temps faire une petite exposition de quelques planches à la fois de la BD et de hors-série que je fais pour la Bascule. Voilà, donc là j'ai pas de nouvelles encore mais bon
il y aura... et dédicacer tes BD à ceux qui les achèteraient.
Et dédicacer, j'en ai fait quelques-unes, c'est un plaisir, c'est aussi
une reconnaissance de ton travail.
Ouais. Bah, c'est toujours pareil, hein, c'est de... Mais bon, c'est un plaisir, oui, pourquoi pas. Ouais.
Donc voilà, si vous êtes curieux du travail de Fred, que tout le monde connaît dans le Diwa, hein, il est très très grand, il a des cheveux longs, il est assez mince. Et ben, vous pourriez trouver ces BD déjà à RDIWA, on en a 4, alors vous pouvez venir chez nous, on les vend au prix de
15 euros.
15 euros la bande dessinée.
Le prix de revient que, enfin, plus on fait des exemplaires, moins ça coûte cher. Moi, j'ai pas les moyens de faire énormément d'exemplaires. Ça coûte déjà assez cher comme ça. Donc, je gagne très peu de dessus. Ça me permet même pas de faire un fonds de roulement pour éditer les 50 BD elles-mêmes.
Tu peux pas non plus aller au-delà du prix classique d'une BD, quoi.
Non, puis 15 euros, je trouvais que c'était bien, quoi. C'était bien, on m'a dit même un peu plus, personne m'a dit moins spécialement. C'est une vraie BD quand même à la sortie. Bon, c'est un exemplaire qui est souple, en rigide, voilà, ça coûterait une fortune. Et puis, c'était pas non plus un objectif particulier. Là, c'est un bel objet, c'est une vraie BD qui a une histoire qui a à découvrir constamment, je trouve, parce que... c'est quand même pour moi l'histoire de l'homme, quoi, de son combat personnel, de la connaissance qu'il en a ou de l'ignorance dans laquelle il est, qu'il y a un phénomène extérieur qui lui permet de sortir de cette ignorance, de se battre pour des valeurs, de pas être dans l'indifférence, savoir vivre avec son prochain, tolérer. Arriver à accepter déjà ce qui nous arrive, ce qui est pas forcément facile, et puis effectivement des choses qui nous arrivent, qui nous dépassent, qu'on peut pas tout comprendre, mais quand les vivants, ça nous permet de les traverser en tout cas, et puis de les combattre d'une certaine manière si elles demandent à l'être.
Donc en fait, c'est bien ce que je disais au début, c'est une fable allégorique des temps modernes et des temps et des temps éternels, puisque voilà, nous avons toujours eu à, enfin l'homme oui, a oui, toujours hein. eu à combattre ses propres démons et effectivement à prendre les difficultés, à les transformer en positif.
Voilà.
Petite dernière question, Fred. Si tu devais en refaire, quel enseignement tirerais-tu de cette première expérience concluante, c'est-à-dire éditée ? Comment tu, est-ce que tu changerais de procédure ? Est-ce que comment tu ferais ? Ou est-ce que tu procéderais toujours de la même façon ?
Je sais pas. J'ai un autre projet de BD. Bon, il y a Motus et Bushkuzu qui sortira aux éditions du Fric bientôt. Et déjà un autre projet après, c'est une BD pour ça. J'ai fait un peu plus de repérage. Je travaillerai peut-être avec un peu plus de matière parce que voilà, l'objectif est différent. Là, ça se voulait vraiment une BD universelle au possible. C'est-à-dire, j'avais pas envie de choisir un lieu, j'ai pas envie de choisir. Quelque chose à laquelle on pouvait tout de suite... Enfin, on s'identifie toujours, malgré nous, à ce qui nous entoure, hein, d'une certaine manière. Ça nous appartient, c'est notre monde. Mais voilà, je voulais essayer d'avoir une BD neutre, finalement, dans laquelle je pouvais mettre beaucoup de choses. Ce que j'ai fait, un clin d'œil, autrement. Et du coup... Je me laissais inspirer par tout et rien, en quelque sorte. Est-ce que la prochaine BD, voilà, c'est un sujet qui est très précis, qui est déjà écrit, pas par moi d'ailleurs. Et
par qui ?
Je le dirai pas. C'est une surprise. Et donc, c'est encore un autre travail. Donc, j'ai déjà le scénario, donc forcément. Et puis, voilà, j'ai pris une situation géographique propre. Donc, il y aura moins d'inventivité, j'aurais envie de dire, au niveau classique, au niveau de la création, bien sûr. Voilà, c'est déjà quelque chose qui me demande un travail plus construit, quoi. Moins de liberté d'action, quoi, on dira. Voilà. Donc par rapport à ça, mon travail sera organisé d'une manière très différente. Mais après, je garde mon principe de me laisser inspirer, d'essayer de. Mais c'est du travail, hein. C'est énormément de boulot, quoi. Donc.
Ouais, ça se voit, hein, que t'as dû travailler. Hein, ça,
donc,
c'est sûr.
Voilà, ça prend du temps. Puis il faut l'avoir, ce temps. Puis c'est pas seulement un temps qui est posé. En gros, je vais faire ça de 2h à 4h, ou je sais pas, de 2h à minuit, ou toute la nuit. Travail artistique, ça demande quand même de rentrer dans quelque chose. Moi, je suis pas quelqu'un de prolixe non plus spécialement. J'ai pas fait d'école ni rien. J'ai pas de réflexes. J'ai des réflexes personnels d'autodidacte et tout ça. Mais c'est pas un travail unique que je fais. Du coup, ça demande tout le temps une immersion supplémentaire dans cet univers graphique. Ensuite, ça demande une complète disponibilité pour pouvoir vraiment faire un vrai travail. Et cette disponibilité-là, faut le temps de rentrer dedans, quoi. Et des fois, et ben, c'est pas toujours évident. Voilà.
Très bien. Bah, écoute, Fred, je te remercie d'être passé à la radio pour parler de ta première BD qui sort dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Voilà. Et puis, je te souhaite qu'elle trouve des gens qui l'apprécient et qui. Moi, juste pour les auditeurs, je peux vous dire qu'au niveau des dessins. C'est vraiment pas mal, hein. C'est chiadé comme on dirait. Voilà.
Et au niveau scénario, alors beaucoup de personnes ont peut-être du mal à comprendre parce que l'immersion de symboles, en gros, pour moi, c'est une histoire symbolique, l'histoire officielle, l'histoire officieuse aussi, mais peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais voilà, ça peut se relire. Et puis, il y a plein de clins d'œil qui renvoient à d'autres choses qu'on peut aller chercher de son côté, qui sont intéressantes. Et puis, voilà, des clins d'œil aussi à des parts d'histoire, des choses qui sont toujours là, qu'on peut oublier. Enfin, l'actualité passe vite aussi, hein, d'un événement à l'autre. Et voilà, c'était une manière pour moi, dans cette BD, de remercier aussi tout le côté très humain qui existe en chacun, qui n'est pas forcément tout le temps là, dans son côté débonnaire, quoi, simple. Et qu'il faut pas en avoir peur finalement, quoi, et que on est des êtres qui changent, qui évoluons, et que ces changements, ces évolutions, voilà, faut aussi laisser derrière sa vieille coquille pour pouvoir sortir, changer de forme. Et on est toujours la même personne, mais et après les choses qui se transforment, du coup, des fois. On a l'impression qu'elle ne nous ressemble pas ou qu'on ne s'y retrouve plus ou par rapport à soi comme par rapport à l'autre. Mais voilà, les choses changent tout le temps. Et cette BD, c'était aussi ça, de dire que voilà, on n'échappe pas au rouage du temps avec tout ce qu'il embarque avec lui et qu'il y a moyen de tirer son épingle du jeu malgré tout, quoi.
Ah, sur ces belles paroles, Fred, je te remercie. Et je vous invite donc à passer à Erdiwa pour consulter. Il y en a un exemplaire en consultation libre.
Voilà, lisez Monsieur Drôle et faites-vous plaisir. Voilà, il y a plein de bonnes choses dedans et parlez-en autour de vous.
Très bien, on va le faire. À bientôt, Fred.
À bientôt. Salut, Louis. Merci.
Au revoir.
Interview.